France Inter. Le masque et la plume. Pour l'épisode du jour, l'actualité du cinéma est à l'affiche avec public nombreux et tribune en grande forme. Parmi les forces en présence figurent Ariane Allard de Positif et du magazine en ligne Cosette, Pierre Murat du Pietro Murat Giornale, Florence Colombani du Point et Xavier Le Herpeur de la revue La 7ème Obsession plus de France Inter grâce à sa chronique du samedi dédiée aux séries à 6h55. Avec Ariane, Pierre, Florence et Xavier, nous débattrons de Boléro, d'un huis clos dans un collège intitulé La salle des profs, d'une virée en Guadeloupe avec Dans la peau de Blanche Welbeck, du phénomène italien C'è ancora domani et de ce que je crois être le chef-d'œuvre posthume du britannique Terence Davis. Tel est le programme à venir face aux spectateurs et spectatrices du théâtre de l'Alliance française. Dans le courrier de la semaine, vous êtes nombreux à réagir à l'un des succès en salle du moment, à savoir One Love, Bob Marley, biopic de l'icône du reggae qui occupe la troisième place du box-office, après un mois d'exploitation avec 1,7 million de spectateurs. Or, pour Christophe Carré de Cernoy-en-Berry, il ne s'agit pas d'un biopic, mais d'un biopire. C'est de la guimauve, dit-il, entre ce film sur Marley et un biopic de Bob l'Éponge. Cet auditeur aurait choisi le second sans hésitation. La fanbase de Bob l'Éponge, voilà, je le vois quasi en extase.
En tant que spécialiste et premier fan de Bob l'Éponge, non, je ne peux que m'assurer.
Voilà, tu te réjouis, Xavier. Hélène Vigneron se présente en précisant son âge, 18 ans, et son amour pour le reggae. Elle raconte « La seule chose qui m'est maintenue éveillée et pendant la projection de One Love Bob Marley, c'est le prix de la place. » Elle note que le film est produit par Brad Pitt et lui prodigue un conseil. Brad, contente-toi d'être acteur. La production, faut que t'arrêtes. En revanche, Hugo Pinson, de l'île d'Oléron, est sorti de la salle avec sa femme et son fils ému et subjugué. « J'ai 36 ans, écrit-il. J'écoute le masque depuis que j'en ai 11. Et j'en suis venu à cette règle. Quand les critiques de l'émission descendent un film, c'est qu'il est bon. » Vous n'avez que mépris pour tout ce qui est grand public, fermez les guillemets. Roger Solomé pointe aussi, je cite, le divorce entre les spectateurs et les critiques du masque concernant La Bête de Bertrand Bonello qui a fait l'unanimité à cette tribune. Heureusement, écrit Roger Solomé, un membre du public est intervenu pour dire à quel point ce film est gonflé à un intellectualisme de pacotille. Je me suis copieusement emmerdée, j'imagine que vous l'avez compris. Quand je regarde un film, il est rare que je regarde ma montre, renchérit Franck Galli de Nice. Or, à l'issue d'une heure de La Bête, je suis partie et fus tentée de me retourner vers la salle pour demander « Mais vous ne vous ennuyez pas à mourir ?» Au contraire, Corinne Seban de Saint-Maur vous remercie, chère collègue, elle a retrouvé dans La Bête de Bonello tout ce qui fait le charme des romans et nouvelles d'Henry James, le film étant la libre adaptation de La Bête dans la jungle de James. Quant à Pierre Cusor, auditeur et correspondant fidèle du masque installé à Gentilly, il salue la virtuosité de Bonello, autant que le talent de Léa Seydoux, interprète principale du film. L'œuvre qui a rassemblé le plus de courriers, c'est Da'ali de Quentin Dupieux. Depuis Lyon, Jérôme Duvivier nous écrit « Da'ali ne m'a pas laissé baba ». Pas de quoi justifier les 6A du titre ni les 5 acteurs du casting. Michel Augier de Rennes pointe ce paradoxe. C'est court et pourtant on s'ennuie. Pour lui, Da'ali est un délire de bobos parisiens déconnectés qui se veulent fantasques. Arnaud Sanquer, lui, se dit prêt à retourner en salle une deuxième fois pour revoir Da'ali afin d'apprécier encore mieux son scénario acrobatique et réécouter la musique signée Thomas Bangalter. Enfin, Jacques Bourguignon de Courcheverny nous parle de yoga pendant la projection de Da'ali. Pour cet auditeur, les spectateurs de ce film se divisent en deux catégories. Ceux qui pratiquent le yoga du rire et ceux qui pratiquent le yoga du masochisme. Jacques appartient à la deuxième catégorie. Selon lui, le film n'est que mise en scène de marionnettes ridicules. Et Jacques, de conclure, bonne journée, bisous. Il ne s'écoule jamais plus d'un quart d'heure dans le monde sans qu'on entende ceci, le boléro de Ravel, que vous avez évidemment reconnu. C'est l'une des choses que l'on apprend avec Boléro, nouveau long métrage d'Anne Fontaine qui raconte la genèse du boléro et qui adapte librement une biographie de Ravel, écrite par Marcel Marna. On suit donc Ravel, souvent en plein désarroi, dans l'écriture de cette partition inspirée des bruits percussifs d'une usine autant que de rengaines populaires. Dans le film, Ravel a le profil d'oiseau de Raphaël Personnaz et beaucoup de femmes entourent cet homme qui semble être resté petit garçon. Anne Alvaro, Emmanuel Devos, Jeanne Balibar, qui incarne la danseuse Ida Rubinstein, Doria Tillier, qui joue Misia, amour platonique de Maurice. Lorsque Misia lui dit « Votre petit cœur est fatigué », Maurice lui répond « Mon cœur, ça m'étonnerait, je ne m'en sers pour ainsi dire jamais. Comment va ton cœur au visionnage de Boléro, Xavier ?»
J'en étais sûr, je voyais ton visage se tourner vers moi. Je lui dis « Non, je ne vais pas commencer, je vais essayer d'être gentil, après les gens ne m'aiment plus, m'aiment pas, ce qui n'est pas très grave d'ailleurs. Je vais me raccrocher à ce qu'il y a de positif, la sublime Jeanne Balibar, Emmanuel Devos, Anne Alvaro. » Que je suivrai au bout du monde, mais peut-être pas dans un film d'Anne Fontaine pour autant, quand même, parce qu'il faut connaître ses limites. Tu as fait réentendre la musique, donc j'ai été victime pendant quelques secondes d'une espèce de tétanie. Voilà. Que dire ? J'ai eu l'impression d'être bloqué au standard d'une administration française pendant deux ans. Ne quittez pas, on va vous trouver votre interlocuteur et hop !
Oh, tu sens bien.
Et en sortant de là, je me suis dit, ça fait longtemps que je n'avais pas été au musée Grévin. C'est toujours chiant, en fait. C'est-à-dire des petites figurines, comme ça, figées dans une expression unique. Alors, Raphaël Personnaz, qui est pourtant un très, très bon comédien, bah oui, il joue toujours le frustré de tout, du succès, de sa vie, de l'amour de sa maman, de sa sexualité qui a l'air d'être aux abonnés absentes, comme mon interlocuteur de l'administration précédemment cité.
C'est n'importe quoi.
Il y a des moyens. Elle n'en fait pas grand-chose. Elle nous raconte l'histoire d'un tube qui a phagocyté son créateur et qui a tout entraîné derrière lui, y compris la mémoire d'autres musiques extrêmement intéressantes qu'on perçoit de temps en temps si on connaît un peu l'œuvre de Ravel. Je ne sais même pas très bien ce qu'elle veut me raconter. Mmh. Bon, voilà, elle a eu envie de raconter ça libre à elle. Est-ce qu'on a envie pour autant d'aller voir le film ? Libre à nous.
Et pendant ce temps, Pierre Murat s'est pris la tête entre les mains.
Non, pas vraiment, mais j'aime le film précisément pour la présentation que tu en as faite, Rebecca. C'est-à-dire que Anne Fontaine peint toujours des femmes, comme tu l'as dit, et elles sont très présentes et très importantes ici, et des garçons. Elle peint jamais des hommes, mais des garçons. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle continue dans ce qu'elle sait faire et qu'elle fait, à mon avis, très bien. Elle peint Ravel comme un garçon. Et je trouve que les scènes les plus formidables du film, c'est toutes les scènes de bordel où, en effet, il est là, mais il ne fait pas ce à quoi tout le monde s'attendrait. Il mesure simplement le bruit que fait la soie sur la peau d'un gant que la prostituée enfile, etc. Non, je trouve que... et en plus, c'est pas si mal fait que ça, contrairement à ce que dit Xavier. La scène où, par exemple, ils se disputent et où il descend l'escalier, c'est absolument formidablement fait. Je trouve que Xavier est très injuste avec Anne Fontaine.
Mais Pierre,
Florence,
tu dis toutes les scènes de bordel. Il y a très peu de scènes de bordel. C'est d'ailleurs dommage, parce qu'en effet, cette scène où il paye une prostituée pour écouter le bruit du gant sur sa peau, c'est assez beau. Tout à coup, on est dans...
C'est pervers, en tout
dans
cas.
L'esprit. C'est... Oui, puis on est dans l'esprit de quelqu'un qui ne perçoit pas le monde comme nous.
Pervers.
Je pense que ce qui est quand même assez...
Oui, toi, je sais, pervers, toi, c'est rien du tout, un gant.
Définissons la perversité. Non, mais ce qui... Xavier dit, qu'est-ce qu'elle a voulu nous raconter ? Malheureusement, elle a voulu nous raconter comment il compose le boléro. Ouais. Moi, j'ai pensé à Clo-Clo pendant ce film.
Ah oui,
étrangement. Pourquoi ? Parce que dans Clo-Clo, qui était un biopic de Claude François, le cinéaste faisait la même chose. Il voulait nous raconter comment il a écrit comme d'habitude. On avait un peu le même genre de scène où ça commence à poindre, la petite mélodie arrive, quelques paroles émergent, et ensuite tout à coup, paf, on a le tube. Et là, en fait, tout le film est comme ça, sauf que le boléro, d'abord, on le connaît déjà très bien. Donc l'entendre par petits bouts avec un personnage qui vient nous dire « Ah, j'aime bien ce petit air, il me fait chaud au cœur », comme le fait la domestique à un moment, c'est difficile de se mettre dans l'esprit de quelqu'un qui entend ces trois petites notes pour la première fois, puisqu'on l'a en permanence dans la tête et le film ne cesse d'y revenir. Et en fait, le film en enferme son personnage de Maurice Ravel dans son boléro.
Bah oui.
En même temps, le boléro, c'est aussi ce qui le définit. Il a précisément souffert d'être enfermé lui-même dans sa biographie par l'œuvre.
Mais justement, je trouve que le film l'y confine de façon injuste, parce que on sent que Ravel est plein d'une autre musique, on sait qu'il a composé autre chose, et le film ne le fait pas exister. Moi, j'ai ressenti cette frustration-là.
Ariane.
Moi, je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée pendant le film. Je le trouve très, très long. Comme Xavier, j'ai pas bien compris ce qu'elle voulait nous raconter. Et surtout, je trouve qu'elle passe à côté de son sujet. C'est-à-dire que la personnalité de Ravel, elle est totalement étrange et fascinante. C'est un homme qui est totalement paradoxal. C'est-à-dire qu'il est à la fois solitaire et mondain. Il est à la fois très sec et hypersensible. Il est obsédé par la musique et par sa maman. Et elle n'en fait pas grand-chose. Et surtout, elle ne le mesure pas à l'aune de cette œuvre. C'est une œuvre qui est incroyablement sensuelle, qui est aussi un peu macabre, un peu tragique, ne serait-ce que par la répétition.
Et érotique.
Et érotique, mais bien sûr. Or, cet homme n'a absolument aucune vie érotique. Et ça, elle ne le raconte pas, en tout cas, elle ne le sonde pas. Mais non, pas tellement. Enfin, le soir du
elle
camp.
Elle le pose, mais elle ne le raconte pas.
Elle le pose, mais non. Et c'est tout le problème du film, c'est qu'elle pose plein de choses et qu'elle se disperse. Et que je pense qu'à un moment donné, si elle veut nous entraîner dans son sillon, il faut qu'elle ait une colonne vertébrale et elle ne l'a pas.
Et pour ma part, voilà. Ce que je pose, c'est Ravel de Jean Ichenou, si ça vous intéresse. Excellent roman. Quelqu'un dans la salle pour apporter une contribution à la critique de Ravel, d'Anne Fontaine.
Oui,
bonjour.
Bonjour, messieurs. Écoutez, oui, le film est. Je crois que vous avez raison. Elle est un peu passée à côté de son sujet. Néanmoins, le film a le mérite d'exister. Il y a un point sur lequel, me semble-t-il, vous n'avez peut-être pas suffisamment insisté. C'est Ravel pendant la Première Guerre. Vous savez qu'il est sa constitution fragile, sa santé fragile, faisait qu'il n'avait pas été recruté, et il a fait des pieds et des mains pour pouvoir s'engager dans ce service d'ambulance. Et c'est là qu'il retrouve le goût pour la musique. Et en fait, ce que vous n'avez peut-être pas suffisamment souligné, c'est que le boléro, c'est le fruit de ce passage, de cette horreur de la Première Guerre mondiale.
C'est pour
de la
ça qu'il y a des résonances macabres dedans. Ouais.
Et je voulais juste terminer pour dire que aux cérémonies du centenaire de la fin de la Première Guerre, le boléro a été interprété sous l'Arc de Triomphe. Et c'était un moment très émouvant, plein d'espoir. Et on espère que cet espoir va rebondir, surtout quand les nuages lourds s'accumulent à nos frontières à nouveau.
Merci pour votre contribution. On passe maintenant à la salle des profs, film allemand qui connaît un très beau démarrage en France depuis le 6 mars, jour de sa sortie. Dans un collège de Hambourg, des vols ont lieu dans la salle des profs. Un élève d'origine turque est d'abord accusé à tort, avant que Carla, l'une des enseignantes, ne mène l'enquête en laissant allumer la webcam de son ordinateur. À partir de là, la situation déraille. Des enseignants, des parents et des élèves se retournent contre Carla. C'est le 4e long-métrage d'Ilker Satak, qui s'initie à une sorte de thriller pédagogique avec l'école comme miroir de nos sociétés occidentales. Le film entier est tissé en huis clos. Jamais on ne sort de l'enceinte du collège. En Allemagne, le film a connu un grand succès et critique et public. 5 récompenses au Deutscher Filmpreis, l'équivalent de nos Césars, dont le prix d'interprétation pour la formidable Léonie Benesch, qui tient le rôle principal. Florence.
C'est un film très réussi, très surprenant pour un Français, parce qu'au départ, on se dit, c'est un véritable conte de fées, ces conditions de travail des enseignants en Allemagne. Il y a presque un côté documentaire pour nous, parce qu'on rentre dans ce collège, on voit cette salle des profs, la photocopieuse qui marche. Il y a quelque chose qui est vraiment un peu fascinant. Bon, ensuite, on rentre dans cette histoire de vol, et là, ça devient beaucoup plus sombre. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans le film, au-delà de sa structure de thriller qui est très efficace, c'est que ça interroge la question de la mort sociale, qui est quand même une question qui nous travaille tous dans nos sociétés en ce moment, puisque plusieurs personnages qu'on ne dévoilera pas sont pointés du doigt comme étant coupables de ces vols. Et on voit les conséquences pour eux, qui sont une sorte de mise au ban, parce qu'il n'y a pas de conséquences judiciaires, en tout cas auxquelles on assiste. Ce qui est plutôt la conséquence principale, c'est que le groupe se retourne contre eux. Et il faut un sacré bagage dramatique à la fois dans le scénario, mais aussi dans l'interprétation. C'est vrai que l'actrice est formidable pour nous tenir comme ça en haleine à ce point. Et j'ai bien aimé aussi que ce soit pas un scénario qui cherche à tout boucler et qu'il y ait des choses qui restent en suspens.
Dont la fin, qui reste très ouverte. Pierre ?
Ben, moi, je suis pas... J'ai tenu pendant 20-25 minutes. Je trouve que là, c'est vraiment très important, la façon dont il met en place son sujet, cette école. Après, je trouve que c'est très, très brouillon. Ça va un peu dans tous les sens pour moi. C'est-à-dire que... il y a Ariane qui me fait des gros yeux, mais oui, je trouve que... alors, bien sûr, il y a les profs qui sont pour leurs collègues, puis se retournent contre, et puis les parents qui se font l'inverse, et puis etc. Alors, bien sûr, vous allez me dire,
c'est complexe,
c'est ça qui fait la subtilité du scénario.
Ouais.
Non, ça fait son désordre, en quelque sorte. Et alors, en plus, pour moi, ça, il n'y a aucun cinéma là-dedans. Pour moi, c'est ce que j'appelle, moi, des films moteurs coupés. C'est-à-dire que c'est cadré, à peu près mis en scène. On voit le metteur en scène qui dit « Ouais, je vais faire ça ». Mais il n'y a pas de cinéma. Tout ça est d'une convention et d'un académisme pratiquement total.
Ariane ?
Ah non, moi, je suis pas d'accord du tout. D'abord, je trouve qu'il y a un très beau travail sur la lumière. C'est-à-dire que c'est un endroit où on a l'impression que la lumière est très blanche, c'est même très poussée, très lumineuse, comme une espèce de transparence. Alors qu'en fait, le film raconte tout le contraire et fait suggérer tout ce qui peut avoir de sombre, d'opaque et de refoulé dans cette société. Moi, je trouve que la forme du thriller est complètement adaptée parce que les vrais grands thrillers, tous ceux qui nous ont hantés, ce sont des intrigues où il y a un dilemme moral. Et ce dilemme moral, il est là. Il est incarné par cette jeune professeure qui croit bien faire, qu'il fait par une forme d'intégrité. Et en fait, par ses gestes, tout se retourne contre elle. Et il y a une espèce d'engrenage paranoïaque.
Et puis, il y a tout un contraste entre la discipline qu'elle enseigne, à savoir les mathématiques qui supposent une certaine logique,
des choses très logiques,
et la complexité d'un scénario où plus rien n'est rationnel.
Et tous des règles. Et c'est pour ça que tu as peut-être eu ce sentiment de confusion ou de dispersion. C'est qu'on assiste effectivement à une espèce de dérèglement général, de ronde paranoïaque, et qui se fait l'écho d'une société. Parce que, en fait, c'est ça qui est intéressant, tu l'as dit, Rebecca, c'est que le collège est effectivement une chambre d'écho pour toutes les grandes questions qui agitent aujourd'hui l'actualité. C'est pas pour rien qu'il y a en ce moment plein de films sur les lycées et les collèges. Et voilà, moi j'ai été complètement prise par ce film. Je voulais aussi insister sur l'actrice Léonie Bénèche. Moi je la trouve remarquable, ouais. De nuances, de subtilité, de présence. Elle est très jeune et je trouve qu'elle incarne formidablement bien ce qu'on lui demande de faire.
Et pendant ce temps, Pierre Murat et Xavier Le Herpeur se tapaient dessus.
Non, je vous ai vu. J'invitais Pierre à ne pas taper sur la table, puisque notre réalisatrice m'a demandé justement de ne pas le faire. Voilà,
je suis déçu.
Une qualité sonore à cette émission, outre la qualité d'analyse. Alors moi, je suis du côté de Pierre Calimero, personne de même, je suis tout seul et machin. Pardon, Florent, mais je trouve ça ultra verrouillé. C'est bien ça le problème du film. C'est-à-dire que dans l'engrenage, dans la manière de l'écrire, dans la manière de l'enclencher, moi, il y a un moment, j'avais un quart d'heure d'avance sur le film et ça ne m'intéressait plus beaucoup. Et c'est surenchéri par une mise en scène. Alors, je pourrais être du côté de Pierre, mais malheureusement, il y a une mise en scène. Alors, elle n'est pas subtile, elle n'est pas fine, qui claquemure le personnage. Et alors, moi, il y a un point d'angle. Alors, j'ai rien compris à la fin, donc je suis ravi que vous m'expliquiez.
Enfin, on va pas
donc
faire.
C'est pas si verrouillé si t'as pas compris.
Ouais.
Mais il y a une scène où tout le lycée, alors est-ce que c'est un fantasme ou pas, porte la chemise qui incrimine la personne qu'elle a dénoncée. Subitement, tout le monde a cette étoile, d'une certaine manière,
mais oui, mais c'est
distinctive.
Ça.
Ben ouais, mais c'est un petit peu gênant. Et la scène se termine dans un brouhaha qui est dominé par des bruits de bottes. Et moi, il y a un moment, j'ai envie de mettre des sens interdits devant quand même certaines intentions des réalisateurs.
Mais non,
méfions-nous,
c'est un film allemand, ça se passe en Allemagne.
Et comme la scène de la fin rappelle effectivement quand même une cérémonie religieuse juive, je voudrais être sûr, quand même, des intentions du réal, pardon, mais je suis pas assez intelligent.
Non, moi, je pense pas du tout qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à ça. C'est un film allemand qui, effectivement, raconte une société qui est chahutée, qui est polarisée et qui trouve des réponses à ses inquiétudes dans le racisme, dans l'exclusion.
Il y a assez de sujets contemporains pour ne pas aller en chercher d'autres.
Et c'est pas un hasard si ce film a hyper bien marché en Allemagne. Il y a un passé terrible qui hante l'histoire récente de l'Allemagne.
Oui, mais est-ce que c'est le moment de le rappeler de manière aussi rapide et sommaire? Ça y est, je suis encore le méchant.
Mais non, on est deux.
Vous êtes solidaires. On va changer totalement de registre avec la comédie de Guillaume Niclou intitulée « Dans la peau de Blanche Welbeck ». Une partie du casting est annoncée dans le titre, en fait, puisqu'il réunit Blanche Gardin et Michel Welbeck. C'est la troisième fois que l'écrivain joue son propre rôle pour Guillaume Niclou. Et dans ce film aussi, Michel est en partance pour la Guadeloupe avec l'un de ses hommes de main. Il doit assister à un concours de ses propres sosies. Concours dont le jury est présidé par Blanche Gardin. J'espère que vous suivez, mais il y a un souci, ou plutôt plusieurs soucis. Je vous en énonce que quelques-uns. Un type avec une machette au milieu du crâne, des champignons hallucinogènes en excès et beaucoup de transpiration. Avec ce duo Gardin-Houellebecq, Guillaume Nucloux aborde post-colonialisme, islamophobie, appropriation culturelle, j'en passe et des plus inflammables. J'en terminerai donc avec une réplique de Blanche Gardin, qui est celle-ci. Et si on fumait un pétard ? Ariane, est-ce que tu es partante ?
Ah, moi, je suis complètement partante. J'ai vraiment beaucoup ri. Je m'y attendais pas. Je dois quand même avouer que j'ai pas une considération énorme pour Houellebecq, ni comme écrivain, ni comme acteur. Donc, j'avais pas nécessairement envie d'aller voir.
Plus, hein.
Voilà.
Mais il a vraisemblablement un potentiel comique.
C'est un bon client. Et je pense qu'en plus, Nicolas a une forme d'affection pour lui. Je pense pas, non, cela dit, qu'il en sort grandi de ce film non plus, Houellebecq. Hein. C'est ça que j'aime, en fait.
Mais ils sont
fous. J'ai eu un petit peu peur de ça. Et je trouve que Blanche Gardin, elle, est complètement à l'aise tout le long du film. Elle est exactement à sa place. Elle ramène sans arrêt Houellebecq à ce fameux et calamiteux entretien qu'il a eu avec Michel Onfray et qui a fait qu'effectivement, du jour au lendemain, on a enfin compris, éventuellement, si on n'avait pas compris qui était Houellebecq. Et ça, alors, c'est traité de façon effectivement comique, etc. Parce que c'est en gros la tonalité du film. Faut le dire, c'est à peu près Bienvenue à Groland, hein, quand même. Voilà, il y a un adjectif qui est beaucoup utilisé souvent aujourd'hui, qui est le terme de punk. Moi, je pense que ce film est un vrai film punk et que c'est à la fois de la provoque et un vrai jeu de massacre. Et franchement, ça fait vraiment bien, du bien.
Punk, mais je précise que Michel Houellebecq, il garde le crâne lisse, sans crête. Donc, Pierre, c'est à toi.
Tu disais que Houellebecq n'en sortait pas grandi, mais personne n'en sort grandi, moi, je trouve. C'est-à-dire que c'est ça, l'intérêt du film.
Oui, c'est un jeu de massacre,
c'est vrai.
C'est un jeu de massacre, mais c'est une sorte de précipité surréaliste. C'est-à-dire que... et il aime ça, Nicolas. C'est-à-dire qu'il prend Blanche Gardin et Michel Houellebecq, réunis comme chez Hitchcock par des menottes, en quelque sorte, et donc ça devient en effet politique, puisqu'il y a des explosions un peu partout, et ils sont au centre d'un concours absolument dérisoire. Donc il y a ça qui est assez fort. Bon, cela dit, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit totalement aussi maîtrisé que ça. C'est-à-dire que Nicolas, forcément, s'il y a une faiblesse, il dit « Ah ouais, mais c'est volontaire, parce qu'il n'y a pas de scénario, j'ai improvisé et tout. » Moi, je regrette un peu le Nicolas qui avait fait un film sublime qui s'appelait « Les confins du monde », Gaspard Ulliel et Depardieu, où il y avait absolument tout ce qu'il fait maintenant, mais sous une forme qui, moi, qui suis un critique extrêmement classique, me convenait beaucoup plus.
Florence.
Moi, j'ai toujours du mal avec les films qui me donnent l'impression d'être des films de vacances entre potes, où tout le monde s'est très bien amusé. Ils sont partis à la Guadeloupe, ils ont bien rigolé, ils ont improvisé des dialogues, et je pense que le spectateur s'amuse quand même beaucoup moins que les gens qui ont fait le film.
C'est possible, ça.
Et en plus, il y a un côté... on touche à des gros sujets. Alors, ça commence par une citation... qui est quand même lourde de sens de Maryse Condé sur le fait que le rire doit nous amener à la libération. D'accord, mais est-ce qu'on doit vraiment aller vers la libération avec Michel Houellebecq ? Et tu dis qu'il sort pas grandi, Ariane, je suis pas sûre. Je trouve qu'on le prend quand même en affection. D'abord, on est avec lui pendant tout le film. On voit un type, en effet, qui est stone en permanence, mais ce qui est considéré comme quelque chose d'assez sympa et rigolo et que tout le monde fait dans le film. Donc, je trouve qu'on est quand même avec lui et on nous demande une certaine empathie avec lui, ne serait-ce que parce qu'il nous fait rire. Moi, je suis gênée par la posture du Houellebecq bouffon du roi, où on doit rigoler de lui ou avec lui, alors qu'il porte un discours qui est quand même très nocif et qui n'est en fait pas vraiment abordé par le film. C'est-à-dire que oui, Blanche Gardin à un moment lui dit « Oh ben quand même, t'as abusé avec Michel Onfray », mais jamais on ne discute de ce qu'il a vraiment dit sur l'islam, de ses propos, sur la décadence de la France, l'Europe qui va à sa perte. Donc je trouve qu'on touche, et on touche aussi au sujet du colonialisme, de l'esclavage, on touche à des choses très lourdes. C'est un peu comme si dans Les Bronzés, on se mettait à parler du stalinisme. Enfin, moi, ça me gêne vraiment.
Vous aviez ?
Moi, je me suis régalé. C'est très persifleur. C'est beaucoup plus malin. Je ne suis pas d'accord avec Pierre. Je pense que le chaos, il l'organise très, très bien.
Ouais. Il est parfaitement assumé.
Dans sa manière, effectivement, il y a des moments comiques très drôles quand elle prend le champignon qu'il ne faut pas de trop et qu'elle se met à parler un peu comme les Anglais dans Astérix, c'est-à-dire en inversant.
Mais c'est Yoda.
Ça, c'est extrêmement drôle. C'est extrêmement amusant. Et elle le tient très bien. Il y a une vraie rigueur de comédienne comique à l'intérieur de cela. Et puis, On oublie qu'il y a, il y a deux installations qui sont effectivement, comme l'a très bien précisé Florence, des extraits de témoignages de grands anticolonialistes.
D'archives.
De gens qui ont milité effectivement pour libérer. Puis en même temps, il y a toujours des personnages qui commentent cette action entre deux blancs. Deux blancs dans un milieu de riches qui se baignent. Il y a toujours autour d'eux un chauffeur, une femme de chambre qui les regarde hallucinés devant autant de conneries.
Hallucinés et aussi caustiques et
très caustiques. Très persifleurs. Du mot persifleur. Ouais. Donc je pense que Niclou réfléchit extrêmement bien à ce
qu'il fait.
Et ça fonctionne particulièrement bien.
Ça pourrait aller plus loin. Ça pourrait aller plus loin.
Donc, pour la suite, voici, je cite, le phénomène italien aux 5 millions d'entrées. C'est ce qui est écrit sur l'affiche de C'è ancora domani. Il reste encore demain. Tel est le titre français. C'est le premier film écrit et réalisé par Paola Cortellesi, humoriste et actrice très populaire en Italie. C'est d'ailleurs elle, Paola Cortellesi, qui tient le rôle principal. Nous sommes en 1946 à Rome. Delia a 3 enfants, plusieurs petits boulots mal payés, un beau-père à la maison, insupportable, avec les mains baladeuses, et un mari qui la gifle en guise de bonjour au réveil. Jusqu'au jour où Delia reçoit un courrier qui va changer le cours de sa vie, comme celui de la société italienne tout entière, mais je ne vous révèle pas la nature de ce courrier. C'est une fable donc en noir et blanc qui a eu d'autant plus d'écho en Italie suite au féminicide de Giulia Cecchettin, une étudiante de 22 ans, tuée par son ex-compagnon. Comme je vous l'ai dit en décrivant l'affiche, la communication met en avant un film, ouvrez des guillemets, phénomène de société, qui a ramené les Italiens en salle. Mais au-delà de ça, qu'en avez-vous pensé les unes et les autres, Xavier ?
Ça y est, je continue de faire le méchant en entrée t'inquiète, t'es de pas débat. Tout seul, voilà. Alors, je vais poser les choses en annonçant un tout petit peu et en disséquant chaque mot. Ça n'est pas parce que j'ai énormément de réserves sur ce film que le sujet des féminicides et de la violence faite aux femmes, je n'y suis pas sensible. Voilà. C'est pas laisse, comme la Shoah avec un, David de Glazer. Voilà.
Laisse un blanc, là.
Je laisse un blanc. Ceci mis à part, c'est pas bon du tout. Sur le sujet, mais non, mais attendez, vous pouvez faire haut, le sujet, évidemment, il faut le traiter, on peut peut-être le traiter de manière contemporaine, j'ai toujours un problème avec les films qui parlent des sujets d'aujourd'hui, mais autrefois, comme si le temps était passé, que ça appartient au passé, que maintenant tout va bien, non, la violence faite aux femmes, les féminicides sont encore extrêmement contemporains, je n'ai pas envie qu'on se réfugie dans un petit film chromo en noir et blanc pour nous dire ouf, tout va mieux, surtout sur la dernière scène que je trouve d'une malhabilité totale. Elle veut faire un film tout public, c'est-à-dire qu'elle ménage constamment une violence qu'elle ne filmera jamais. Alors, si son principe, c'est de faire venir les jeunes spectateurs, filles, garçons, enfants, pour être sensibilisés à la cause, oui. Mais il y a un moment, transformer la violence maritale en scène de tango, une fois, deux fois, trois fois, sans jamais aucune évolution et aucun contrepoint, ça me gêne. Elle veut faire un film esthétique, l'ouverture en ralenti, en plan séquence, où elle a plein de moyens pour faire marcher cette femme dans une rue de l'après-guerre. Les personnages secondaires, comme le GI noir, sont embarrassants de caricatures et de clichés et d'interprétations
maritales. Ouais.
Bref, c'est un sujet qu'il faut traiter, peut-être de manière plus moderne, de manière plus actuelle, mais pas de cette manière-là.
Florence.
Alors moi, j'aime ce film, et je vais le défendre. Et j'aime ce film pour son mauvais goût aussi. C'est un film de mauvais goût, c'est le film d'une femme qui a fait des one-man shows et qui écrit sous la forme du sketch. Donc ce qui est très fort dans le film, c'est qu'il y a des blocs. C'est pas un film qui a les codes de la mise en scène. Oui, c'est en noir et blanc, mais c'est à aucun moment c'est un noir et blanc magnifique comme dans le néo-réalisme. C'est vraiment comme des sketchs pour la télé. Mais c'est très efficace, c'est très malin, et moi je trouve qu'il y a une vraie beauté à la fin. Le tango, oui, elle décide de transformer cette scène de violence en chorégraphie. C'est une réponse intelligente, je trouve, à une autre forme de vulgarité qui est cette vulgarité de toujours montrer en gros plan la violence faite aux femmes, de s'attarder sur avec une complaisance et aussi de transformer ça en spectacle. Elle nous dit c'est un code. Pour moi, c'est vraiment comme un spectacle sur scène. C'est un code, il faut comprendre ce code et on rentre dedans. Et il y a une lourdeur dans le propos, mais c'est la lourdeur aussi des monstres de Dino Risi et des films de la grande comédie italienne. Ils étaient lourds. Quand on les revoit, il y avait de la lourdeur là-dedans. Ça s'inscrit aussi dans cette tradition-là. Et pour moi, c'est vraiment un film qui va marquer et qui va rester. Et je pense que les gens vont aimer.
Qui marque en Italie, en tout cas. Ouais. Ariane.
Moi, j'ai trouvé que c'était un film compliqué à regarder. Parce qu'effectivement, Xavier l'a souligné, le sujet et le message sont irréprochables. Et la forme empruntée pour raconter cette histoire, je la trouve très problématique. Alors, au début, j'étais quand même intriguée, parce que ce noir et blanc, qui oscille entre la comédie, on va dire, néo-réaliste, et le mélo, parce que c'est un peu entre les deux. D'abord, je trouve que, du coup, comme on est entre les deux, on se demande si la réalisatrice ne l'est pas également, et il y a un problème, à mon avis, de point de vue. Bon, mais quand même, au début, je me suis dit, bon, peut-être que je me fais des films, comme quand je m'ennuie, en général, je me raconte les films que je suis en train de voir. Ouais. Et je me suis dit, en fait, cette forme en noir et blanc, avec des images très stylisées, un peu raides, un peu cliché aussi, je me suis dit, ça me fait penser à la forme du roman photo. Et comme on est dans un milieu très populaire, hein, parce que là on est vraiment, on voit les cours avec les femmes, les commères qui commentent effectivement la vie des autres, etc. Je me suis dit, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que cette femme qui est quand même réduite en esclave par sa famille, par son mec qui la bat sans arrêt, par ses enfants, par son beau-père et par la société, ça raconte quand même une société, la société italienne après la guerre, est totalement patriarcale. Je me suis dit, effectivement, quels étaient les refuges et les moments de détente. Il y avait la radio et il y avait les romans photos. Sauf que, à un moment donné, on arrive à cette scène de tango, et franchement, je trouve cette scène mais hyper embarrassante. C'est-à-dire qu'on les voit, en plus c'est une scène, au départ il commence à danser, ensuite il commence à la frapper, et elle continue de filmer de la même façon. C'est une façon presque lyrique, presque enchantée, presque ravie. Et là, il y a vraiment un truc qui est non seulement de mauvais goût, je reprends ton expression, mais qui est totalement déplacé.
Pierre, pour finir.
Je pense que Xavier a raison.
Oh là, prudence.
Mais
on est enregistré, cette parole va rester dans l'histoire.
J'ai pas fini sur. Ah. Mais je suis quand même du côté de Florence, parce que
le triple salto arrière, bravo.
C'est le en même temps de Pierre.
Parce que d'abord, pour moi, il y a une actrice aussi, parce que je suis pas tout à fait sûr que ça soit un grand film, mais elle, je trouve qu'elle porte le film. Totalement, complètement.
Je redonne son nom, Paola Cortellesi.
Oui, elle est vraiment, je trouve.
Ouais, c'est la mère courage, hein. C'est pas
non.
Mais c'est pas.
Oui, c'est, si tu veux, c'est Mama Roma. Mais non, il y a autre chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus élégant, de plus. Et on en revient à ce que j'aime. Je suis tout à fait d'accord. C'est des blocs. Alors, il y a des blocs pas très réussis. Bon, mais il y a quelquefois quand c'est très réussi. Par exemple, la mort du grand-père. La mort du grand-père.
Spoiler.
Non. La mort du grand-père, parce qu'il a, non, il va mourir dans le film. Hein,
bah oui, tu l'as dit.
Non, mais on s'en fout.
C'est un ignoble personnage.
On s'en fout pas dans la mesure où ça donne justement. Alors là, c'est très bien, parce que c'est d'une méchanceté, d'un cynisme, d'une insolence qui rejoint absolument la grande comédie à l'italienne de jadis. Alors le grand problème, c'est que les comédies italiennes de jadis, de Comencini, de Pietro Germi, était bien meilleure et bien plus insolente que ça. C'est ça le problème. Après, la stylisation et même la scène qui vous choque tant, Xavier et toi, ne me choque pas. C'est de la stylisation. C'est pas du réalisme. Si c'était du réalisme, bien sûr.
On termine ce masque cinéma avec Les carnets de Siegfried, film posthume du cinéaste britannique Terence Davis, décédé en octobre dernier. Les carnets de Siegfried font revivre une figure de la première moitié du XXe siècle, le poète anglais Siegfried Sassoon. Envoyé au front en 1914, Siegfried est un soldat exemplaire et il revient pacifiste, hanté pour toujours par le massacre de la guerre. Il défie les autorités, ce qui lui vaut d'être interné dans un hôpital militaire. Une fois l'armistice signé, Siegfried Sassoon devient la coqueluche du Londres intellectuel et mondain, où il vit ses amours homosexuelles, tumultueuses, et pour la suite, il faut aller voir le film en salle. En 2h10, mais non, je ne vais pas tout vous dire. En 2h10, c'est 80 ans d'existence quand même, je crois. En 2h10, donc, Terence Davis retrace une vie avec différents registres d'images, dont des archives en noir et blanc, une voix off qui cite des extraits de l'œuvre de Sassoon. À l'écran, le poète est interprété par Jack Lowden pour ses années de jeunesse, et à la fin de sa vie, il a le visage de Peter Capaldi. Pierre, tu commences, parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert ce film.
Et je t'en remercie. J'ai une grande passion pour Terence Davis. Il n'est pas encore hélas, connu du grand public, mais ça viendra. Et c'est un cinéaste de la mémoire, surtout. C'est-à-dire que dans tous ses films, ce sont des souvenirs qui reviennent, et même dans les biographies qu'il fait, c'est le cas, la mémoire a un rôle extrêmement important.
D'ailleurs, la rétro à Beaubourg s'intitulait « Terence Davis, le temps retrouvé ».
Oui, et j'allais dire que c'est peut-être son film le plus proustien, parce que là, c'est à la fois le Sodome et Gomorre, en quelque sorte, puisqu'il peint à la fois la fascination de l'univers homosexuel british de l'époque.
Aristocrate.
Et la cruauté qui va avec. Et puis, c'est aussi le temps retrouvé avec ces moments absolument sublimes. Vous savez, ça rappelle le fameux bal des têtes de Proust, lorsque le temps a passé. Et là, il y a un plan absolument superbe, où on voit un type comme ça, très efféminé, très beau, et qui brusquement, en une seconde, devient la vieille personne qu'il va devenir. C'est d'une cruauté et d'une tendresse. J'adore ce film, et que l'œuvre de Terence Davis finisse sur un homme qui pleure sur un poème qu'il n'a pas écrit, mais qu'il trouve génial, et qui pleure sur tout ce qu'il a raté et tout ce qu'il a réussi. Moi, ça me donne les larmes aux yeux, vraiment.
Ariane.
Alors, moi, je dirais que plus que la mémoire, je pense que c'est un film sur la réminiscence. Et le film adopte une forme que je trouve très belle. Ça ressemble à, en musique, la fugue avec ses motifs où il y a des thèmes qui sont mis en avant, puis qui ensuite se retirent et qui reviennent. Il y a sans arrêt ce mouvement comme ça. Si je parle de musique, c'est Terence Davis, que je connais certainement moins bien que toi, Pierre, mais j'ai vu quelques films de lui. C'est quelqu'un qui a toujours des films qui sont plein de musique et qui sont construits souvent de chansons et qui sont construits souvent comme des œuvres musicales. Et ça m'a beaucoup touchée.
Et ça commence comme ça d'ailleurs.
Ouais.
Ça commence par un concert.
Par un concert, exactement. Et la deuxième chose que je trouve très belle, c'est que c'est un parcours intérieur, c'est très introspectif, ça rejoint l'idée de la mémoire et de la réminiscence. Et c'est le parcours de quelqu'un qui a été traversé et qui a vécu l'horreur, et qui n'aura de cesse toute sa vie que de chercher une paix qu'il sait illusoire en plus. Et donc, par exemple, il vit son homosexualité de façon complètement décomplexée, et en même temps, ce sont encore des amours tumultueuses. Et je trouve que c'est très beau, parce qu'effectivement, Pierre le dit, c'est un constat d'échec à la fin. Et juste ça, je trouve ça magnifique.
Moi, j'ai grandi avec le cinéma Terence Davis, que je découvre en 88 avec Distant Voice.
La parole est à Xavier Le Herpeur.
Qui était magnifique. Ce film-là, j'aime pas l'expression, mais elle s'impose là. C'est vraiment un film de testament. On retrouve son goût pour le documentaire, pour commenter le documentaire. Il y avait un documentaire sur Liverpool, sa vie de prédécente, qui était extraordinaire. J'ai eu un peu peur au début. Je me suis dit, oh là, les images d'archives, le texte, la poésie. Puis en fait, le film se développe de manière magistrale. C'est une leçon de mise en scène. Vous en avez très bien parlé sur les thématiques. Je ne vais pas revenir dessus. Mais regardez la beauté, la précision de la mise en scène avec des récurrences de couleurs, de vêtements qui passent d'une époque à une autre.
Et
le montage qui est absolument extraordinaire. Il suffit d'une écharpe mauve comme ça pour traverser le temps, pour devenir fétichiste d'un désir et d'un amour perdu. C'est remarquablement mis en scène, c'est remarquablement pensé. Et joué, tu l'as dit, par Jack London, qu'on avait vu dans Dunkerque et qu'on a vu également dans une superbe série, Slow Horses, disponible sur Apple TV. Il est méconnaissable et ça prouve que c'est un immense acteur.
Le masque va-t-il terminer par une tribune à l'unanimité? Réponse avec Florence Colombani.
La réponse est oui. Ah. Pierre parlait de Proust et Terence Davis, c'est un cinéaste qui me semble être profondément viscontien. Visconti étant lui-même un cinéaste très proustien, la boucle est bouclée. Mais il y a quelque chose de très britannique en effet chez Terence Davis, et pourtant, dans son utilisation du décor, du costume et même de l'esthétique quasiment picturale du plan, il y a quelque chose qui nous ramène vraiment au cinéma de Visconti, c'est-à-dire un cinéma qui, tout en traitant de l'aristocratie, ne nous tient jamais à distance. C'est-à-dire, on est toujours avec ces personnages dans leur psyché, et alors ce que je trouve particulièrement beau là, c'est qu'on est dans l'esprit d'un écrivain, et c'est même pas un écrivain qui est fier de lui, c'est un écrivain qui se sent inférieur à un autre. Donc il y a quelque chose de très humble aussi dans cette superposition qu'on peut voir entre le cinéaste et son personnage, c'est que jusqu'au bout, le personnage va être de Siegfried Sassoon va être hanté par un autre poète qui lui paraît encore plus grand que lui. Et c'est particulièrement beau la façon dont un des textes de ce poète-là se fera connaître à nous à la fin. C'est vraiment très très beau.
Si vous le souhaitez, public du Théâtre de l'Alliance, la parole est à vous, spectateurs, spectatrices. Bonjour.
Oui, bon, je voulais juste vous demander, est-ce que vous les avez lus, les livres de Sassoon?
Bah, du coup, moi, je suis allée voir un peu les poèmes. Je n'ai pas lu les livres, j'ai lu quelques-uns de ses poèmes.
Ce qui est curieux, c'est que je n'arrive pas à retrouver Sassoon, enfin, les livres que j'ai lus, dans ce dont vous parlez. Ah. Je suis curieuse d'aller voir le film pour voir si je retrouve le Sassoon. Voilà.
C'est un autoportrait aussi, Terence Davis.
C'est
normal que vous n'identifiez peut-être pas au premier sens.
Il y a des extraits de poèmes en fait qui jalonnent le film et qui voilà le scande effectivement puisque je parlais de musique. Mais c'est le peu de poèmes que j'ai lus, ce sont des poèmes qui sont assez âpres, qui parlent des horreurs de la guerre, hein, qui sont très réalistes.
Mais les horreurs sont là.
On voit des images effectivement d'archives. Mais c'est une écriture qui n'est pas du tout lyrique, qui est très réaliste et très, très dure. Et le film n'adopte pas du tout cette forme-là. C'est ça la question que vous posez. Voilà.
En tout cas, merci pour ce point de vue de lectrice qui va au cinéma. Et c'est le signal pour vos coups de cœur. Pierre, qu'as-tu choisi pour aujourd'hui ?
Alors, un film euphorisant, ça va nous changer de certains films dont on a parlé là. Ça s'appelle « Les rois de la piste » de Cliffa.
Ouais.
Ça raconte l'histoire d'une famille de voleurs. Ils sont voleurs de grand-mère à petit-fils.
Les pieds nickelés.
Et alors, ça commence par un casque qui ne marche pas, mais sauf qu'il y a un tableau de Tamara de Lempicka qui disparaît. Et tout le monde va essayer, quelques années après, de le retrouver, savoir s'il est vendu, etc. Et donc, ça devient une sorte de polar sophistiqué. Il y a un peu de comédie à l'italienne aussi, un tout petit peu dans l'exotisme de certains personnages et et beaucoup d'élégance à la française. Alors, il y a Mathieu Kassovitz
qui est génial. Kassovitz, c'est super.
Kassovitz est absolument superbe en voleur qui, chaque fois qu'il a une émotion, tombe dans les pommes, quoi, quasiment. Enfin, voilà. Fanny Ardant est magnifique. Et puis Nicolas Duvauchel dans un emploi.
Dans un emploi différent. Voilà, merci.
C'est tout ça. Non, mais vraiment, si vous voulez vous détendre après les films un petit peu durs dont on a parlé là, vous allez voir Les Rois de la Piste de Thierry Cliffa.
Ariane.
Moi, j'ai eu un coup de cœur pour un premier film qui a été réalisé par une jeune autrice et réalisatrice française qui s'appelle Nora El Ourche. Son film s'appelle HLM Pussy. Et je l'ai trouvé très intéressant d'emblée parce que c'est l'une des premières à sonder l'impact du mouvement MeToo dans les quartiers et surtout l'impact sur les jeunes filles qui y vivent. Ça, en général, les films de banlieue, les films de quartier, c'est plutôt mec, quoi. Et là, on est du côté des jeunes filles. En l'occurrence, c'est ces trois copines qui ont 15 ans, qui sont des amies d'enfance, qui sont inséparables, même si il y en a une qui est issue d'un milieu plus privilégié que les deux autres.
Elles sont issues de milieux sociaux différents.
Et puis, donc, elles sont impétueuses, naïves, un peu fofolles. Et jusqu'au jour où celle qui, effectivement, est issue d'une classe, disons, moyenne, un peu plus supérieure, poste sur les réseaux sociaux, je ne vais pas tout dévoiler, mais ça c'est très important, je suis désolée, poste une vidéo qui met en cause l'agresseur d'une de ses deux autres copines. Elle fait ça évidemment forte justement du mouvement MeToo et de la révolte qui est en marche pour dénoncer cette attitude, sauf que ces deux copines, elles vivent dans la cité et donc ça devient extrêmement dangereux pour elles parce qu'elles sont à proximité de ce lascar et de sa bande. Voilà. Et je trouve ce film, même s'il a des maladresses, je trouve ce film d'abord d'une grande tonicité, d'une grande énergie. Les trois comédiennes sont géniales et surtout ça brasse des tas de thèmes qui sont super importants avec beaucoup de nuances, que ça soit l'amitié adolescente, que ça soit les réseaux sociaux et leurs nuisances.
On va en rappeler le titre.
Alors pardon, le titre c'est HLM Pussy.
Xavier.
Je partage les deux coups de cœur de mes petits camarades. J'en rajoute un troisième. On a parlé de film punk. Et ben, je crois que j'ai le film le plus punk de la semaine. C'est Tiger Stripes, un film malaisien, un premier film signé par une jeune femme qui s'appelle Amanda Nell Eu. C'est vraiment le film qui fait du bien. C'est contemporain, c'est moderne, c'est en Malaisie. Une jeune fille à ses règles.
Pour la première fois.
Pour la première fois. Donc voilà. Ouais. Sujet ô combien tabou. Et elle se transforme en monstre, mais en monstre des années 80, avec des griffes, avec des maquillages absolument improbables. Le film est très hirsute, il est très provocateur au bon sens du terme, et ça donne un film d'une insolence, d'une modernité, d'une jeunesse absolu, Tiger Stripes, courez-y.
Ça fait très envie. Et pour terminer, Florence.
Alors, mon coup de cœur, c'est Eureka de Lisandro Alonso. C'est un film où il y a aussi une transformation en animal et une histoire autour des Amérindiens qui est composée de trois strates différentes. Une strate qui a l'air d'être une sorte de western à l'ancienne. Et ensuite, une sorte de traversée nocturne dans une réserve indienne dans le Dakota du Nord aux États-Unis. Inoubliable, si vous avez vu ça, si vous avez été avec cette jeune indienne qui est policière dans cette réserve de Dakota du Nord et qui sillonne les routes par une nuit de tempête de neige, vous n'oublierez plus jamais ce moment.
Et pour fermer le banc, moi je dirais simplement Motore, parce que je vous propose une grande traversée de l'œuvre de Federico Fellini grâce à un podcast de France Culture qui s'intitule Fellini l'illusionniste. Alors en 5 fois 1 heure, merci les insomnies, Matteo Caranta, qui donc est l'auteur de cette série, met en regard l'époque, la vie et l'œuvre de Fellini à travers une cartographie. Rimini, là où il est né, Rome, qu'on ne visite plus de la même façon grâce à Fellini, les pays des rêves et des esprits qui nourrissent ces images, Cinecittà évidemment avec le Studio 5, où il avait quasiment élu domicile. Et évidemment, il y a beaucoup d'extraits, preuve que le cinéma, ça se regarde, mais ça s'écoute aussi. Donc, vous pouvez écouter Fellini l'illusionniste, série de 5 fois 1 heure signée Matteo Caranta et remarquablement mise en onde par Somani Na. Sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France, c'est gratuit. Ariane, Pierre, Florence, Xavier, merci d'avoir donné de la voix au micro du masque aujourd'hui. Et la semaine prochaine, c'est à l'actualité littéraire que sera consacré le programme. Audrey Ripouille réalise le masque et c'était avec Philippe Thimault, Nadège Antonini, Alex Olarevajou Otinois et Méloé Chaloni et Louise Ilerito. Ilinka Negulesco assure coprogrammation et préparation d'émission avec l'indispensable Célestine Babinet. Audrey, Ilinka, Célestine et moi-même vous donnons rendez-vous dimanche prochain sur France Inter, évidemment.